Ilecus et Taro sont enfermés dans le hangar des Tachikomas de la section 9. Un Tachikoma se met à leur parler soubrette.
Ah, mais vous êtes donc une soubrette, et non pas une domestique. Saviez-vous qu'à l'origine, le mot soubrette était destiné au théâtre ?
Des heures qu'on est enfermé dans cette cellule, depuis notre enlèvement par ce commando.
Ouais, mais au moins ils nous ont sortis de cette forêt de merde.
Ouais, et ben j'aurais préféré ne pas me faire taser. Et surtout ne pas être obligé d'écouter cette boîte de conserve nous monologuer la face. Et tant qu'il aura de la batterie, il va pas nous lâcher.
Ouah, mais là il parle de soubrette, c'est super intéressant en vrai.
Et regarde ce que j'ai trouvé dans la réserve de la section 9. De véritables artefacts de l'ancien monde.
C'est un genre de bande magnétique.
Les humains appelaient ça des VHS. C'est génial, il y en a plein. Regarde ça, Candy, Lucie Lamoury Rock'n'Roll, Princesse Sarah, Cardcaptor Sakura, ça a l'air trop bien.
Et celle-là, c'est quoi ? Ghost in the Shell. Oh, bah j'attendrai une adaptation film live.
J'adore les antiquités, je vais toutes les regarder.
Mais ce sont des bandes magnétiques, on ne peut pas les visionner. Y a pas une liaison optique standard ? Ou un protocole sans fil ?
T'inquiète, regarde. J'ai demandé à Bateau de me greffer un lecteur de bande magnétique correspondant juste sous l'abdomen. Ça s'appelle un magnétoscope.
Oh, que cet appareil est laid et archaïque! Et il m'a l'air si encombrant. Cherche plutôt une version dématérialisée.
Pour une fois qu'un robot dit un truc intelligent. Moins ça prend de place, mieux c'est.
Eh oh, n'enterrez pas si vite les éditions physiques, elles ont des arguments à faire valoir.
Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du podcast Le Samouraï et la Soubrette. On va aborder un truc un petit peu différent après plusieurs compilations de recommandations. Là, un dossier où on a voulu comparer nos avis entre tout ce qui est dématérialisation et support physique pour tout ce qui est animation japonaise. Jean, d'abord, pour un petit point de vue situation, est-ce que tu as des abos stream ?
Alors actuellement, là, au moment où on enregistre, non. J'ai récemment eu un abo quelques temps sur ADN pour regarder quelques animés. Notamment, j'ai regardé les Kyokai no Kanata sur ADN, fut un temps. Avant ça, j'ai eu une période où j'ai été assez longuement abonné à Crunchyroll. J'ai fini par mettre fin à mon abonnement à cause du service qui était assez déplorable sur PS4, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est un abonnement qui avait commencé à la base parce que j'avais suivi la diffusion de l'animé Darling in the Franxx, qui donc était une exclue Crunchyroll en France à sa sortie. Toi, Xavier, il me semble que tu as eu plus récemment et plus longuement des abonnements que moi à des plateformes comme ça.
Alors, j'ai un abo Netflix, c'est assez récent au final, c'est depuis 2020. Depuis début 2020, un abo Netflix, un abo Prime vraiment très récemment, ça doit être le mois dernier.
Putain, j'oublie tout le temps Prime, oui, mais c'est vrai que du coup j'ai le Prime. Netflix, j'en parle pas parce que je squatte un abonnement, donc je suis pas très fier. Mais c'est vrai que Prime, je l'ai pas mentionné. Mais à part finalement Overlord, que j'ai regardé dessus pour faire des comparaisons de qualité alors que je pouvais le voir ailleurs, je ne crois pas avoir jamais regardé de Japanimation sur Prime Vidéo.
Ben, après, bon, on parlera de l'offre de Prime, peut-être. Sinon, j'ai eu un abonnement à Crunchyroll pendant un certain temps, surtout pour pouvoir apprécier des séries sans pub. Il y a beaucoup de choses sur Crunchyroll qui m'ont plu en termes de séries et de propositions de catalogue. Par contre, j'ai pas été sur les autres du marché, c'est-à-dire Wakanim et ADN. Wakanim, je l'ai pu l'utiliser, mais sans abonnement.
D'accord, ok. Donc effectivement, là, on voit un petit peu une source de problème possible, c'est qu'il y a une certaine multiplicité des plateformes, Quand bien même, à l'heure actuelle, Sony en est arrivé à être propriétaire de, c'est quoi, c'est deux tiers ou trois quarts de l'offre
quasiment
du marché.
En vrai, quasiment tout, à part peut-être ADN, et je suis même pas sûr.
Et donc, bon, ça c'est une autre problématique, hein, c'est problématique économique, mais il y a quand même une grande multiplicité des plateformes, et peu importe qui est derrière, ça veut dire aussi une multiplicité des abonnements, si finalement tu veux profiter de tout. Ça, du coup, bah, je pense que c'est un peu pareil pour nous deux, c'est un problème, quoi, parce que, engloutir... 5 à 10 balles dans un abonnement mensuel, c'est déjà quelque chose, c'est déjà pas mal, quoi. Faire ça sur 4 plateformes en même temps et en arriver à au moins autant que le prix de ton abonnement pour ton accès à Internet, moi je trouve ça un petit peu exagéré, quoi.
Ouais, bah, surtout que c'est un beau dawa, notamment en termes de catalogue, c'est-à-dire autant, on va dire, chez les spécialisés, je vais un peu détailler, chez les spécialisés, on va avoir quand même... des exclusivités sur chacune des plateformes. Autant si tu mixes, on va dire, Netflix, Amazon avec les autres, tu vas avoir des redites. Et du coup, tu dis, c'est con, j'ai quand même payé pour un truc que je retrouve sur trois plateformes différentes, quoi.
Ouais, ouais. Du coup, quand même, deux, trois petits critères qui peuvent t'aider à différencier des plateformes. On sait qu'il y a des plateformes qui permettent d'avoir un compte multi-écran. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que des gens se partagent des abonnements, hein, comme typiquement Netflix. On avait regardé notamment pour Wakanim à un moment donné, parce qu'on hésitait tous les deux à se prendre un abonnement, on avait eu dans l'idée d'essayer d'en partager un, et c'était du mono-écran, donc débrouille-toi, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que bah, c'est un petit peu dommage, mais on n'a pas passé le cap. Tu pourrais nous détailler un petit peu les connaissances que tu as là sur les différentes plateformes à l'heure actuelle ?
Ouais, alors bon, évidemment, jusqu'à présent, on parle d'offres légales, hein, parce qu'après, bon, pour tout ce qui est Grand Line, je vous laisse vous renseigner tout seul, voilà. Pour les offres spécialisées, c'est-à-dire les plateformes qui vont proposer essentiellement de la Japanime, on peut parler donc de Wakanim qui propose un abonnement à 5€ par mois. Avec un tarif dégressif selon la longueur de l'abonnement. Crunchy a un système à peu près similaire également, hein. Donc Crunchy, la petite différence avec Crunchy, c'est qu'ils ont une offre gratuite également, qui est peu contraignante parce que c'est à peu près la même qualité que ce que tu peux avoir en premium, sauf que
elle
tu
est basée sur la publicité.
C'est ça, basée sur la publicité et aussi quelques contenus exclusifs, notamment les doublages. Ouais. Les versions françaises sont toutes derrière un paywall.
Ouais.
Pour ADN, c'est un petit peu plus cher. On a un abonnement à 6 à 7€ par mois à peu près. Si on passe du côté des généralistes, c'est-à-dire des gens qui font pas que de la Japanime, notamment Netflix et Amazon Prime. Donc Amazon, ben c'est un prix de 49€ par an qui va avec le Prime, sachant que bon, ça n'englobe pas que la vidéo, mais aussi plein d'autres services que je préfère pas détailler parce que je ne suis pas marketeur chez Amazon et je connais très peu l'offre au final.
C'est vrai que c'est difficile du coup d'en parler juste en tant qu'abonnement. Disons qu'a priori c'est pas un service que les gens vont aller chercher pour uniquement regarder de la Japanime, c'est plus un package qui vont prendre pour l'ensemble ou pour autre chose et du coup ça arrive en bonus.
Oui, c'est ça, c'est d'ailleurs leur force de frappe, c'est de dire prenez Prime en gros pour avoir une livraison plus rapide et puis d'un coup hop vous avez des choses en plus. Voilà, et puis sans compter tout ce qu'ils font par rapport à Twitch et aux jeux vidéo aussi.
Oui, mais il y a plein de services, il y a l'hébergement de photos, etc.
La musique aussi, bref.
Ouais.
Netflix est plus concentré sur tout ce qui est vidéo pure, donc les films et les séries. Et ils ont une offre Japanimation. Eux, ils vont produire aussi des œuvres de Japanimation dont ils vont acquérir l'exclusivité de diffusion.
Par exemple, Violet Evergarden.
Voilà. Et on est sur un tarif multi-écran à actuellement 16€ par mois, si je ne dis pas de bêtises. Sachant qu'il y a des offres dégressives pour avoir moins d'écran. Qui sont à partir de 9€, mais le problème c'est que moins tu payes et moins tu as de qualité d'image, sachant que je sais que Jean a des griefs sur la qualité max déjà, sachant que voilà, 8€ on va avoir une qualité SD, donc en gros hors téléphone ça paraît compliqué à être utilisé.
Ok.
Jean, à un moment tu parlais de Crunchyroll.
Ouais.
Tu disais que tu avais arrêté à cause de problèmes sur, sur l'application PS4. Est-ce que tu peux un peu détailler ça?
Ouais. Crunchy, il y a eu deux choses qui m'ont dérangé. Il y en a une, c'est à un moment donné, quand j'avais regardé un peu les trucs dont j'avais entendu parler, que j'avais envie de regarder là-bas. Bon, notamment, il y a eu les Darling in the Franxx. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de découvrir aussi d'autres trucs dont j'ai pu entendre le nom ou dont j'ai pu entendre parler du synopsis et que ça m'intéressait. Et très souvent, c'était tu cherches l'animé, tu le trouves, tu cliques dessus, tu arrives sur la page et là, ah bah désolé, c'est pas disponible dans votre région. Au lieu de le filtrer directement et de pas me le proposer, en fait, ça me faisait un peu l'effet ah bah ça a l'air cool, je clique, je vais aller le regarder. Et bah non, tu peux pas. Donc c'est cette espèce de petite sucette qu'on t'enlève, quoi. Moi j'ai trouvé ça extrêmement mal pensé et très frustrant déjà d'une part, et d'autre part bah, effectivement je suis pas trop du genre à regarder les animés sur PC parce que éventuellement le soir en mettant avec le laptop dans le lit je peux regarder un épisode comme ça en passant, mais c'est assez marginal. Je mate pas trop d'animés sur devant mon PC de bureau parce que bah, je suis assis dans une chaise et c'est plus fait pour bosser ou pour jouer, quoi. Et donc au final ce que je cherche avant tout c'est de pouvoir mater ça du coup dans mon canapé devant ma télé, surtout que depuis maintenant, plus récemment je me suis équipé après Crunchyroll d'un bon équipement de son, donc ça me paraît impensable de pas regarder du contenu vidéo sur ma télé maintenant. Et l'application PS4, en dehors de ces gros boutons, d'un truc qu'on dirait une page HTML ou une appli mobile convertie à la PS4, quoi, le vrai problème, en fait, c'est la qualité du service. Donc, je me suis renseigné un peu sur le net et je suis pas le seul à avoir rencontré ce genre de soucis. Des soucis étant une PS4 connectée en HDMI à une télé Full HD, raccordée avec une connexion tout à fait suffisante, uniquement en filaire jusqu'au modem, qui n'arrive pas à streamer de la 1080p assez vite pour la lire, qui n'arrive pas non plus à se contenter de quelques minutes de pause en début d'épisode pour charger suffisamment d'avance pour ensuite pouvoir regarder l'épisode, voire même des moments où tu laisses 10 secondes à charger un truc, tu remets play et puis ça te lit 3 secondes et ça remet pause parce qu'il lui refaut 10 secondes pour charger la suite et ainsi de suite. Donc complètement inutilisable en fait, comme si ça avait été connecté à un modem qui en fait était un téléphone qui était raccordé en 2G, placé dans un champ au fin fond de l'Ardèche. Et du coup, la page support de Crunchyroll à ce sujet, c'était extrêmement complet, c'est-à-dire « Ah, vérifiez que votre connexion est suffisante et que vous êtes raccordé en filaire. » Sauf que les gars, je suis raccordé en filaire, je sors le laptop en Wi-Fi, je le connecte à la télé en HDMI et ça me lit la 1080p, mais les doigts dans le nez, tout en téléchargeant un truc à côté, streamant YouTube sur une autre machine, sur la même connexion, etc. etc. Donc c'était juste... hors de question de payer pour ça, en fait. Typiquement, je prends un exemple, les ReZero. ReZero, c'est Crunchyroll oui. qui a acquis les droits de diffusion. Donc, à un moment donné, j'ai regardé des ReZero là-dessus. Pour la saison 2, ça a été Grand Line, parce que quand bien même j'aurais voulu accepter de payer l'abonnement à ce moment-là, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début. Je crois que j'ai eu le droit à une nouvelle offre d'essai de 7 jours, et du coup, j'ai tenté de me les regarder sur la PS4. J'ai pas pu regarder le premier épisode, quoi. Et du coup, il a été plus rapide de télécharger l'intégralité de la saison et de commencer à la mater comme ça en la mettant sur une clé USB ou sur le laptop que de simplement regarder légalement en streamant en temps réel le premier épisode, quoi. Impensable.
Ouais, alors c'est là où c'est assez important de voir les modes de consommation différents qu'on a, vu que moi j'ai été aussi longtemps abonné à Crunchyroll, je dirais pourquoi je ne le suis plus dans pas très longtemps, mais moi j'ai jamais rencontré de problème technique avec Crunchyroll, notamment parce que je l'utilise soit sur mon PC, soit sur mon téléphone.
Oui, effectivement, du coup t'es passé uniquement par des navigateurs, du coup, que ce soit
c'est
mobile
ça.
Ou desktop. Ouais.
L'appli. C'est une appli
sur mobile.
Sur mobile, je regardais. C'était pas par navigateur, okay. C'était par l'appli Crunchyroll.
Ok, bah, peut-être qu'elle a bénéficié d'un meilleur soin. Ou d'ailleurs, c'est peut-être même pas au niveau de l'appli, c'est peut-être au niveau des serveurs. Mais en tout cas, moi, manifestement, il y avait un problème parce que je peux avec ma connexion, je pouvais streamer 4 fois ça en parallèle sans problème, quoi.
Ouais.
Et du coup, toi, Crunchyroll, tu n'es plus abonné à l'heure actuelle?
Alors moi, c'est tout bête. En gros, j'étais sur un abonnement et avec prélèvement tous les mois, ma carte a expiré. Du coup, l'abo est parti avec la carte. Et au moment où j'ai voulu le reprendre, en fait, je me suis dit, attends, je vais attendre qu'il y ait un peu plus d'exclus qui m'intéressent
pour reprendre un abo et regarder d'un coup. Parce que, comme tu disais, il y a effectivement un cumul des abonnements à avoir. Comme je le disais, ben, j'ai déjà, en gros, j'ai déjà Netflix, j'ai déjà Amazon Prime. Je vais peut-être attendre d'épuiser ce que j'ai déjà sur ces applis-là avant de passer à autre chose. Et d'ailleurs, je peux annoncer dès à présent que, a priori, Amazon Prime, je suis à 2-3 séries d'arrêter, en fait. Parce que j'aurais épuisé tout ce qui m'intéressait. Ouais.
D'accord.
Et puis, sachant qu'en plus, ça se reprend très facilement. Donc voilà.
Ok. Alors, du coup, pour faire un petit bilan des avantages et inconvénients qu'on a pu constater à titre perso là, sur ces offres dématérialisées, je vais faire le père fouettard et m'occuper des mauvais côtés. Je te laisserai lister quand même les nombreux avantages que ça a. En défaut, du coup, je vois la visibilité du catalogue. On en a un petit peu parlé, du coup, de pas toujours être évident de trouver ce qu'il y a ou de ne pas voir ce qu'il n'y a pas vraiment à dispo, selon où tu te trouves. Dans certaines conditions, la fiabilité technique du service, qui peut être très correcte à complètement inacceptable. D'une manière générale, par contre, même quand ça fonctionne bien, les débits vidéo sont mauvais. Ça, c'est quelque chose qui est acté, hein. Il suffit de regarder de la HD Netflix par rapport à ce que c'est de la vraie HD d'un contenu qu'on aurait acheté en achat d'épisode ou même en utilisant un Blu-ray. En termes de mauvais élèves de stream, du coup, bah voilà, hein, y a Crunchyroll sur PS4, c'est juste inacceptable. Ou on peut regarder aussi du côté des débits vidéo, on peut s'attaquer un petit peu à Netflix qui a des débits vidéo qui sont assez pourris, hein, mais c'est pas le seul. Hein. J'aurais pu citer justement le premier épisode d'Overlord, mais pour le coup, bah, Netflix, il est pas pire que ADN ou Amazon Prime Video à ce niveau-là. On en a déjà un petit peu parlé. Un autre point qui est pas lié au service en lui-même, mais à la façon dont il est géré, ou plutôt la façon dont les droits sont gérés, bah, les droits, ça expire. Hein. C'est pas comme un droit d'auteur qui s'arrête des dizaines d'années après ta mort. Hein. C'est la disparition des séries, des catalogues, parce que les droits ont pris fin, ou simplement ont été renouvelés ou accordés à quelqu'un d'autre. Généralement, en tout cas à notre connaissance, c'est sans annonce ou préavis au préalable, quoi.
Oui, et quand on pose la question souvent aux plateformes, bon, alors Netflix dit strictement rien, mais même quand on va aller du côté de Wakanim ou de Crunchy, souvent il faut vraiment aller leur tirer les verres du nez pour apprendre qu'une série va disparaître, ou plutôt une série a disparu.
Ouais, ouais. Mais alors du coup, il y a quand même quelques avantages. Hein,
bah,
y en
a. Honnêtement, ils sont nombreux. Ouais. Moi, si je suis allé vers la SVOD, c'est surtout à cause de la largeur du catalogue, quoi, et de la disponibilité. C'est-à-dire que si on enlève forcément les possibilités infinies de Grand Line. On en a marre d'aller chercher à droite à gauche, d'utiliser les astuces que tout le monde connaît, et qu'on veut faire un truc propre un truc propre, légal et surtout ergonomiquement qui fonctionne. L'offre légale est pour le coup assez, assez satisfaisante, surtout que avec l'essor de l'intérêt pour les...
Nous y voilà, vas-y, continue ta phrase.
Pardon, l'essor de l'intérêt pour la Japanimation, on a quand même quasiment toutes les séries qui proviennent du Japon en simulcast en France. Et c'est un énorme avantage par rapport, on va dire, à... Quand j'ai commencé à regarder la Japanimation,
c'était marginal, quoi.
Ouais, et tu tombes même sur une pauvre Japanime pourrie, c'est waouh, j'ai de la Japanime, j'essaie d'en trouver, quoi.
Ouais.
Donc là, c'est, ouais, il y a un peu, pour moi, il y a l'effet d'aubaine qui joue complètement là-dessus. T'as un côté aussi confort d'utilisation par rapport aux différents moyens de consommation que t'as. Comme je disais, moi je le mate, j'en mate sur ma télé, mais par rapport à Netflix. J'en mate sur mon PC pour Crunchyroll. J'en mate aussi sur mon téléphone pour Crunchyroll et pour Prime. Je me pose même pas la question de attends, comment je vais faire pour aller un truc, c'est instinctif, ça se fait au doigt et à l'œil, et c'est vraiment ultra pratique pour ça.
Ouais. Et il me semble qu'il y a un dernier point.
Plus en plus de VF.
Voilà.
Il y a de plus en plus de VF, c'est quand même bien.
Ouais, voilà.
C'est quand même bien parce que en fait, auparavant, pourquoi les VF sont produites? Pour une seule raison, c'est parce que les séries vont à la télé.
Ouais.
Il n'y a que la télé qui dit on va produire une VF parce que nous, on ne peut pas diffuser de la VOST sur nos chaînes.
Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.
Voilà. Et que surtout, depuis cette époque de Canon Survivant, la qualité a augmenté de façon exponentielle.
Oui, ouais, mais je pense qu'on a le même avis là-dessus. En France, on a des... Du coup, bah, forcément, nous ne parlons ni japonais ni anglais. Donc, nous importons énormément d'œuvres de cinéma ou de jeux vidéo depuis l'international et de Japanimation depuis le Japon. Et on a des comédiens qui font un travail qui est formidable.
Et des adaptateurs ultra respectueux des œuvres d'origine, surtout.
Voilà, chose qui a bien changé dans le bon sens par rapport à il y a 15, 20 ans et plus. Quoi.
C'est ça. Et maintenant, du coup, c'est les plateformes elles-mêmes qui vont produire ces VF-là et qui vont attirer en plus des acteurs qui n'étaient pas forcément dans ce domaine-là, même s'il y a beaucoup de doubleurs qui sont d'acteurs de doublage qui sont spécialisés dans tout ce qui est dessin animé ou Japanimation. Il y en a d'autres qui viennent d'autres univers et des gens qui font surtout du film live et des voix même assez connues. Donc c'est assez intéressant et ça tire vraiment toute la qualité vers le haut.
Ouais,
donc je suis très content de ça.
Voilà, bah on a parlé auparavant de retrouver des comédiens qui ont prêté leur voix à des personnages dans Game of Thrones et qui se mettent à faire du Overlord. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a 15 ans. Quoi.
Ouais, genre, je sais pas, des voix officielles de Brad Pitt ou de Johnny Depp. Quoi.
Ouais, voilà.
qui se mettent à faire de l'animé et tu dis, waouh,
ouais.
C'est cool.
Ouais, je mets quand même un bémol là-dessus. Ce qui est triste, c'est qu'on a quand même encore. Le monde tourne comme ça. C'est money. C'est l'exclusivité des VF qui va parfois à ces plateformes-là parce que elles sont telles qu'ils les financent et les organisent. Et ça arrive qu'elles se conservent les droits. On ne sait pas trop, on n'est pas dans cette sphère-là qui est un monde assez fermé, mais je ne sais pas comment elles sont négociées. Soit ils refusent tout simplement de les négocier auprès d'autres plateformes, soit ils leur proposent un prix exorbitant, soit la plateforme demandeuse propose un prix absolument dérisoire. Enfin bref, en tout cas, il n'y a pas d'entente et il n'y a pas de partage des droits et ça fait qu'on a des VF qui se retrouvent en exclusivité à des plateformes comme la VF de Violet Evergarden qui lui est exclusive à Netflix.
On a même le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des éditions physiques qui vont produire des VF et la VF ne sera pas
sera pas importée sur les plateformes.
Voilà. Avec comme exemple Angel Beats. C'est vrai qu'on parle de stream depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la VOD.
Oui, parce que là c'était de la SVOD par abonnement. La VO quoi ?
Ouais, voilà.
La VO quoi, oui.
Oui, la VOD, c'est en fait tu vas acheter un film ou une série et puis la louer ou l'acheter sur la plateforme de ton choix.
Ouais. Donc effectivement, c'est l'achat ou la location. Historiquement, ça a démarré pour les films. Donc le prix est à l'acte hein, selon le magasin. Soit tu vas le voir sur cette plateforme, en gros c'est t'as le droit de lire le fichier. Et puis donc par exemple moi j'ai un DVD qui venait avec un code, c'est assez rare, c'était pour YouTube, donc j'ai un film qui est dispo sur YouTube sur mon compte, mais jamais je ne pourrais le télécharger quoi, sans passer encore une fois par des moyens détournés hein. Officiellement YouTube ne me donne pas accès à une version dématérialisée. D'autres te vont permettre de te récupérer un fichier vidéo. Donc là on va pas pouvoir citer toutes les plateformes parce qu'il y en a une infinité, mais on peut citer quand même quelques-unes qui sont liées à des fournisseurs d'accès ou à des chaînes de télévision.
Bah, historiquement ça a été Canal Vidéo en premier qui a voulu faire ça. Évidemment donc tu disais des opérateurs type Orange, SFR, Bbox, etc. Amazon le fait aussi, notamment d'ailleurs ils en vendent via Amazon Prime. Ils te disent quand tu cherches un animé, regarde, tu le trouves sur Amazon Prime et t'as pas vu le petit astérique qui dit en fait celui-là tu vas le payer par contre.
Oui, l'abonnement ne donne pas accès à l'intégralité.
Ouais, c'est des petits malins. C'est pour moi c'est un peu le corollaire de ce que tu disais sur Crunchyroll.
Ouais.
Sinon oui effectivement Apple Vidéo fait ça, Google via ça, Google le fait par Google Vidéo et YouTube aussi parce que tant qu'à faire pourquoi se contenter de prendre de l'argent d'un côté quand on peut prendre de plusieurs côtés. Il y a aussi le Microsoft Store parce que à un moment Xbox avait une politique très multimédia etc.
C'était un des arguments de la console. Voilà. Il y a aussi des plateformes existantes de SVOD qui proposent de payer des suppléments ou des abonnements d'un autre type pour avoir des droits de téléchargement, notamment Wack Anime et ADN,
oui,
qui permettent de télécharger respectivement avec un tarif dans les 1€ par épisode ou un abonnement de 15€ par mois qui donne accès à des crédits de téléchargement pour télécharger des épisodes qu'on espère être quand même de meilleure qualité du coup que ce qui est mis à dispo quand c'est du stream.
Moi, ma question est qui utilise de la VOD pour de l'animation Jap aujourd'hui, parce qu'ils ne doivent pas être super nombreux à l'utiliser. Je pense qu'en termes de proportion, sur si on parle juste de démat, on est sur une écrasante majorité de streams et
oui,
assez peu de
oui.
VOD. Hein.
Je pense que bah, d'une part, c'est que ça ne correspond pas aux usages et que ça fait concurrence en étant désavantagé face à des offres qui sont existantes. Et puis peut-être aussi qu'en termes de proposition, il y en a moins aussi comparé aux films qui, pour le coup, sont quand même assez largement distribués par ce biais.
Je dirais qu'il y a le seul avantage éventuel, outre le côté chronologie des médias qui fait que en fait tu peux avoir la VOD avant le streaming pour un film notamment,
ouais, ouais.
Et que tu as certains films qui ne sont pas dispo sur les plateformes de stream, beaucoup de films qui sont pas par exemple de A1 Pictures ou pas de la Toei, un peu indé, ça va être un peu compliqué, notamment tous les films de Osada, c'est compliqué de les trouver en stream, je crois que c'est quasi impossible en France de, ouais, les trouver légalement, ouais. Mais à part ça, de toute façon, le prix est exorbitant. Quand tu vas avoir pour une location 8-9 balles.
Ouais, pour juste le droit de regarder le film dans les 24 heures qui suivent.
Pour les 48 heures.
Ouais, c'est...
Non, mais non, ouais, quoi. Ouais. C'est pas envisageable. Plus, voilà, le côté que t'as des contraintes techniques fortes, comme tu disais, on est obligé d'utiliser soit une plateforme en particulier pour le voir, soit en fait des DRM qui t'obligent à être connecté en permanence ou tout autre genre de bêtises. Voilà quoi.
Ça, ouais, ça ouais. Il y a aussi des fichiers vidéo qui sont livrés vraiment sous forme, non pas d'application, mais de fichiers vidéo, mais qui contiennent quand même des DRM. Pour le coup, j'en ai fait l'expérience sur Wack Anime. J'avais acheté un épisode de Shakugan no Shana à l'époque. Et c'était je crois que c'était un WMV, donc le conteneur de vidéo de Microsoft, qui contenait une DRM. Les conditions de fonctionnement de cette DRM et les limitations qu'elle imposait n'étaient vraiment pas détaillées par Wack Anime. Donc pour le coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en route la vidéo dans mon lecteur tout en la refilmant avec une application qui filmait mon écran en très bonne qualité pour en faire une autre vidéo que j'avais compressée dans une qualité acceptable, en captant des pixels et en étant débarrassé de la DRM. C'est quand même triste de devoir en arriver à ces extrémités là quoi.
Ben, j'ai envie de dire autant pirater, je suis désolé.
Ben
mais...
non, mais voilà, c'était juste pour me dire normal, que j'avais eu le droit d'avoir ce fichier vidéo, quoi, et j'avais le droit de faire cette manip, quoi. Alors du coup, Xavier, tu en as déjà parlé à plusieurs occasions. Pourquoi, toi, du coup, tu n'utilises pas de Blu-ray et tu utilises, à ma connaissance, quand même relativement peu de DVD?
Parce que c'est de la merde. Non. Plus sérieusement, pourquoi? En fait, je suis pas un grand collectionneur. Même que j'ai eu ma période collection, mais c'était surtout pour tout ce qui est CD. Ouais, il y a plus de 20 ans. Hein. On est bien d'accord, ça a commencé il y a plus de 20 ans.
Il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'est ça, j'avais commencé à collectionner les CD il y a plus de 20 ans, et quand ça s'est mis au vinyle, je me suis dit, ça prend trop de place ces conneries, on arrête quoi. Et ça a été un peu pareil mon réflexe pour les DVD. J'ai quelques DVD de séries qui m'ont extrêmement marqué, dont on parlera sûrement, hein, et j'ai une grosse période de Japanime en gros qui peut aller jusqu'à on va dire 2005-2006 à peu près. Pourtant, à partir du moment où ça prenait trop de place et que les déménagements commençaient à vraiment se succéder et être chiants, j'ai un peu mentalement switché et dit je vais arrêter de collectionner tout et n'importe quoi. Et c'est aussi la raison de mon attrait pour tout ce qui est streaming et des maths. Il y a une autre raison aussi, c'est que ben du coup je suis pas équipé, j'ai pas de lecteur Blu-ray chez moi. Je trouve que mon logement est pas assez adapté, dans le sens où il faudrait vraiment un écran qui est mis en valeur et un recul, c'est ça, par rapport à l'écran,
ouais, ouais.
Assez conséquent. J'aime pas l'idée d'organiser mon salon autour de ça,
ouais, ouais.
Dans l'idée, et finalement en fait ça me va bien comme ça. Je vais néanmoins franchir le pas pour quelques œuvres que je trouve exceptionnelles et que je veux et que je veux garder. Et même là, je reste tatillon quand il n'y a pas les conditions qu'il faut, c'est-à-dire il n'y a pas de bonus, il n'y a pas la VF, ce genre de trucs.
Mais alors,
du coup,
en termes d'installation, pour faire une comparaison, donc maintenant, j'ai vu récemment à quoi ressemblait ton salon. Du coup, est-ce que tu trouves que l'installation chez moi est adaptée ?
Oui, complètement.
Ok.
Mais une fois de plus, la différence, c'est que un truc tout bête, c'est que la télé est au centre de la pièce, le système son est au centre aussi.
Ouais.
Tu as du coup tu peux mettre le recul sur ton canapé à peu près aussi loin que tu veux.
Ouais, ouais.
Voilà, t'es bien là-dessus. Ma télé, en gros, elle est près de la fenêtre, limite dans un coin.
Ouais, ouais.
Je peux pas, si je mets un système son qui va avec, ben il sera limité. Soit il faut vraiment que je mette des enceintes partout et bien les mettre correctement. J'ai toujours cette histoire de reflet quand ce sera en journée, du coup. La manière dont c'est fait, avec du coup les rangements qui existent déjà, plus la cheminée qui est obligatoire, que je peux pas virer vu que je suis en location, si je veux le faire ça correctement, je sais pas dans quel sens tourner mon salon pour que ça fonctionne,
ouais,
en vrai,
ouais.
Et j'ai en vrai jamais voulu m'embêter sur ce genre de considération.
L'installation télé n'est qu'un accessoire qui se greffe à ton salon, et ton salon s'organise pas autour de ça.
C'est ça,
ouais.
Honnêtement, ils s'organisent autour de la table, parce que moi je mange dans la vie.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'en comparaison, mon appartement, on mange à la cuisine, en fait, et très rarement dans le salon. Et le salon, alors c'est pas qu'il est organisé autour de la télé, parce que j'ai quand même d'autres meubles, notamment,
oui,
le piano.
Non, je voulais juste, c'était par rapport à...
C'est vrai
à...
que de par sa forme et son organisation, le coin télé apparaissait assez logiquement de lui-même et remplissait les conditions pour pouvoir mettre un bon système son, avoir un canapé bien en face, que je peux, comme tu l'as dit, rapprocher ou éloigner un peu à l'envi. Donc ouais, effectivement, les appartements à ce niveau-là n'étaient pas comparables, quoi.
Il y a un dernier point aussi qui est important, c'est que ma consommation d'animé, elle n'est pas uniquement en SVOD, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup au cinéma. Je me jette assez régulièrement sur les sorties cinéma d'animé japonais.
Oui, bah,
et d'animé de manière générale.
Tous les deux. Hein, donc,
d'animation de façon générale. J'ai la chance d'habiter, pour le coup, dans une ville où il y a beaucoup de cinéma, où que ce soit des grosses sorties ou des trucs vraiment très, très confidentiels, il y a de grandes chances que ça sorte.
Ouais,
et
vu que tu es à Lyon, que ce soit Lyon ou les cinémas alentours, comme on l'a vu pour le film Violet Evergarden, par exemple, les deux films Violet Evergarden,
voilà,
d'ailleurs, qu'on a vu tous les deux ensemble. Mm-hmm. Et bah, c'est vrai que c'est à proximité de chez toi, quoi. C'est accessible même via les transports en commun.
C'est ça.
Ouais.
Juste avant Violet Evergarden, le film qu'on a vu ensemble, je suis allé voir un film très confidentiel d'animation japonaise, mais ambiance très... très, très rock, très punk, très bizarre, très Yuasa.
Angaku ?
Ouais.
Ouais, ouais.
Et c'était diffusé dans 11 cinémas en France, dont un qui était à 300 mètres de chez moi.
Ouais,
donc
voilà,
c'est, il y a un côté bon, bah super. Je
pour
profite
le coup,
à fond, quoi.
Moi j'ai dû faire les allers-retours à Lyon la journée ou la soirée ou la nuit pour pouvoir profiter de ce genre de séance avec toi, quoi.
Et souvent c'est vrai que j'ai une bonne le côté cinéma fait que j'ai une très bonne mémoire de ce que je vois au ciné. Qui me donne à 2-3 exceptions près, j'ai pas forcément envie de me les refaire. J'ai adoré revoir Akira en 4K. Je me dis pas, je vais me prendre le Blu-ray d'Akira en 4K parce que c'est de toute façon, j'ai pas de quoi en profiter correctement.
Oui, ouais, je pense que ça joue aussi parce que tu vois, par exemple, j'ai revu assez récemment les Enfants de la Mer à la maison. Que j'avais depuis longtemps en Blu-ray, mais je m'étais dit tant qu'il n'y aura pas le nouveau système son, je le re-regarde pas. C'est l'été dernier, du coup je me suis équipé avec ce système. Entre temps j'avais déjà maté des trucs un peu sympas comme Promare, du coup sur cette installation, et là me refaire Les Enfants de la Mer seul à la maison, comme seul au ciné, parce que j'étais seul dans la salle le jour où je l'avais vu au ciné, mais c'était avec ce son, c'était sublime, quoi. C'est, pour le coup je me dis pas l'avoir vu au ciné me fait que c'est sûr je le regarderai pas à la maison. En tout cas moi ça marche pas comme ça, quoi.
Si tu as un créneau pour refaire les 15 premières minutes de Promare avec le système son, moi je suis là, hein.
Oh, ça doit pouvoir s'arranger,
parce que pour le coup on parlera de Promare un autre jour, mais les 15 premières minutes
ouais.
ça envoie le grave pâté. C'était principalement par rapport à ça. Jean, on a fait une interview déjà sur tes coffrets.
Oui, oui, oui.
Hein, donc t'en as deux, trois.
Hein. Ouais, ouais.
Je vais pas trop poser la question du pourquoi, du comment.
Ouais, non hein. plus.
Parce que bon, on va encore refaire une bonne tartine. Mais je sais que toi, en fait, tu trouves que c'est surtout un excellent rapport qualité-prix par rapport à ta consommation.
Ouais, ouais. Sur les BR, de manière générale, en fait, c'est propre et on en a pour son argent. On a vu quand même récemment des coffrets de mauvaise qualité, voire de qualité complètement inacceptable, hein, notamment en fin d'année 2020, il y a eu Promise Neverland qui a été édité, distribué par Kazé.
Ben, il y a aussi l'exemple de Nana, distribué voilà, aussi par Kazé.
Qui, donc, on l'a vu tous les deux, donc toi-même, tu revendiques hein, ne pas avoir l'œil, tu l'as dit, œil de taupe. C'était, enfin, même sur une télé Full HD à bonne distance, c'était évident qu'il y avait du color branding de partout, qu'il y avait du flou, l'image était baveuse. À part quelques scènes en extérieur, c'était sur tout l'épisode que c'était flou et baveux, quoi. C'était inacceptable.
Non, le truc, honnêtement, le truc était scandaleux. Et pourtant, moi, voilà, sur l'épisode de Violet Evergarden, t'avais noté vraiment la grosse différence entre du coup la qualité du Blu-ray et celle de
Netflix. Hein.
Netflix. Et pourtant, même en l'ayant vu là, ben juste y a pas très longtemps, dirons-nous,
oui.
ça m'a pas piqué les yeux. Mince, de waouh, c'est quand même beaucoup beaucoup moins bon. Ouais. Alors que là,
Promise Neverland, si tu l'as vu,
c'était horrible,
c'était chaud. Ouais.
C'était chaud. Ouais. Quoi.
Bah, tu m'avais dit,
c'est une qualité DVD quoi.
À chaud, juste après l'avoir vu, tu m'as dit, moi je suis habitué à ça, mais quand j'achète des DVD quoi. Voilà, et encore, je sais qu'on a des DVD qui, à défaut d'être en haute définition, ne sont pas flous, ils sont nets.
Alors, j'allais dire des DVD de Japanime de toute petite série.
Voilà. Mais alors, du coup, donc ça c'est un petit peu les exceptions. Donc, c'est pour dire, c'est pas parce que vous achetez un Blu-ray que c'est de la folie, hein, ça arrive.
Renseignez-vous.
On n'a pas de chance, hein, ça arrive. Mais de façon générale, c'est quand même très propre. Que ce soit sur le papier ou dans la pratique, dans la très grande majorité des cas, ce sont des qualités audio et vidéo qui sont supérieures à toutes les offres dématérialisées possibles, que ce soit streamé ou télécharger des fichiers, hein, que ce soit les acheter ou les louer. On a quand même assez souvent des petits bonus sympas sur des coffrets. On a aussi pas mal de coffrets qui s'accompagnent d'une VF qui n'était pas forcément existante ou dispo sur les plateformes dématérialisées. On a pour l'aspect un peu collection, on a déjà un petit peu parlé, les coffrets sont toujours très joliment faits hein, en termes de design, la façon dont ils font les boîtes, les disques, les livrets, tout ça c'est toujours très joli, ça respecte l'esprit de la série. Mais voilà, donc d'une manière générale, quand tu as une bonne installation pour apprécier l'image et surtout le son, parce que je trouve qu'on a tendance aujourd'hui chez beaucoup de personnes à faire passer, en gros, ce qui compte c'est d'aller acheter une télé immense. Faut qu'elle soit en 4K ou en 8K et qu'elle ait 3 mètres de diagonale et puis ça s'arrête là.
Oui,
et on garde les haut-parleurs 2x5 watts intégrés à la télé. Quoi.
C'est bien pour voir du foot.
Voilà, c'est ça. Mais effectivement, tu vois, tu parlais de Promer. Je vous garantis que regarder Promer sur une télé Full HD de 80 cm de diagonale avec un bon son 5.1 qui envoie les canaux et les basses là où il faut, ce sera incomparable avec regarder ça sur une télé 4K de 2 mètres de diagonale avec les haut-parleurs intégrés de 2x5 watts. Quoi. Moi, le choix est vite fait en tout cas. C'est le premier. Quoi. Je préfère que ce soit équilibré quoi. Mais du coup voilà, ça c'est quelque chose que je peux avoir que par les Blu-ray et c'est pas tout. En dehors des problématiques de lecture des Blu-ray, parce que le Blu-ray bon, il y a quand même aussi ses inconvénients, Sony ils ont bien déconné, ils ont bien fait en sorte de faire chier tout le monde quand ils ont designé ce système. En théorie quand même je suis censé pouvoir les lire ad vitam aeternam. Alors on est d'accord, hein, c'est un support optique, hein, c'est pas de la magie, mais ça dure quand même longtemps, très longtemps, ça peut durer 20 ans ou plus facile. C'est pas la disparition de Kill la Kill de Netflix par exemple. Hein. Moi mon Blu-ray, bah, il est sur mon étagère et puis bah, il va y rester quoi. Parce que ça c'est quelque chose qui, moi ça m'arrive assez régulièrement de regarder des trucs, ne serait-ce que pour le plaisir ou pour les faire découvrir à des gens aussi. Ça c'est assez régulier quand même.
J'ai pas connu Kill la Kill sur Netflix.
Ouais, bah, ça a assez vite été retiré du catalogue en fait. Hein. Donc bah, je sais même pas, en fait je pense pas qu'on est un historique, on peut peut-être trouver des liens qui mènent à la page, mais Netflix va nous dire 404 et il nous dira pas ça a été retiré de notre catalogue
non,
à telle
non,
date
ça,
quoi.
En fait tu pourras trouver assez facilement sur il y a des sites en fait dont le business est qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort du catalogue de Netflix par pays.
Ouais.
c'est le seul but de ces sites là et ces sites sont très suivis.
Donc du coup c'est Bah voilà, du coup, on possède l'œuvre pour de vrai dans le temps. On a un support avec une bonne longévité. On l'a acquis définitivement. On a qualité vidéo et audio qui sont incomparables avec tout le reste que propose l'industrie, à part s'asseoir dans une salle de cinéma, évidemment. Et du coup, il y a des VF et des sous-titres qui peuvent venir, qui sont pas toujours dispo parfois en dématérialisé ou qui ont été corrigés entre temps.
Alors, corriger les sous-titres, corriger, c'est possible. Comme je te dis, hein, les trois quarts des séries désormais sont.
Oui, mais les nouvelles séries.
Je parle des nouvelles.
Oui, attention, parce qu'en édition physique, on a aussi des éditions de trucs qui sont un peu plus anciens.
Ah oui, non, mais moi je parle.
On a de tout.
Oui, non, mais moi je parle de. On peut dire que tout ce qui a été paru depuis à peu près 2016, tu pourras le trouver en VOST FR de bonne qualité, quasiment.
On n'est pas à l'abri du coup de quelques accidents, la Promise Neverland. Il y avait aussi la traversée du temps. Moi j'ai constaté au visionnage un problème sur l'audio. Au mixage, il y a un des persos qui avait du bruit, un sifflement strident dans sa piste. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé au mixage, mais ils ont certainement pas réécouté le film parce que c'est pas possible.
Problème de mixage aussi sur Dragon Maid.
Ouais, entre les différentes voix quand quelqu'un pense pendant que d'autres personnages parlent.
C'est dommage.
De manière générale, quand même, on en a pour son argent, et surtout on en a pour son argent français, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, l'industrie du physique n'est pas du tout la même que chez nous, hein. Ce sont des prix qui sont exorbitants là-bas. Si vous essayez de faire un import d'une série qui serait pas dispo en physique en France, vous allez voir à quel point c'est cher au Japon. Donc sans même parler de toutes les méthodes de zonage qui sont censées, en tout cas qui ont été pensées pour vous empêcher d'importer des disques d'ailleurs, vous verrez que au Japon c'est très très cher de s'équiper en physique. Donc en France, on a quand même de la chance pour ceux qui aiment et qui ont envie de s'équiper, que ce soit à des tarifs un peu plus raisonnables.
Ouais, c'est pour ça que quand on regarde par exemple les ventes de Blu-ray, DVD au Japon, on est souvent étonné par le nombre de ventes qui est assez limité. Mais en fait, c'est parce que c'est vraiment des achats soutiens.
Oui, quand ils ont fait 10 000 ventes, ils sont contents, quoi.
C'est des achats soutiens, oui. Mmh.
Ouais.
En termes de défauts, t'en as dit 2-3. Bon, moi, forcément, le premier qui me vient, c'est l'encombrement.
Ouais, l'encombrement, t'en as
voilà,
parlé.
Voilà, j'ai une bibliothèque qui me correspond bien, c'est-à-dire avec bien le bordel, avec un peu de trucs partout. T'auras aussi bien des CD, des BD, des Blu-ray, un peu de tout, quoi. Et il y a un côté, au bout d'un moment, je dis, j'ai pas envie de trop en mettre, ou sinon ça devient une médiathèque, quoi.
Ouais,
et donc forcément, c'est pour ça que je disais que je me limitais à vraiment des trucs qui me marquent, quoi.
Ouais, pour le coup, mon salon, c'est une médiathèque, quoi. Ouais.
Il y a un peu de ça quand même.
Ouais, il y a un peu de ça. Ouais.
Il y a un peu de ça. Je crois qu'elle est même mieux fournie que beaucoup de médiathèques, soit dit en passant.
Écoute, on peut déjà reconnaître la médiathèque de Montélimar d'avoir la première partie du coffret de Kill la Kill.
Voilà. Il y a un truc tout bête, hein, qui est le prix. Je vais pas me lancer sur une comparaison de combien coûtent tous les abonnements à l'année parce que ça
nous mènera nulle part, hein.
Et ça propose pas la même chose. C'est juste que ça propose pas la même chose entre quelque chose que tu peux regarder qui va peut-être disparaître, mais il y a une multitude de catalogues, et puis une œuvre précise que t'as pour Aditam.
Oui, non, c'est pas comparable.
Pour moi, ça a pas de sens, mais on va dire que c'est du prix à l'acte.
Ouais.
Voilà, et que t'en as quand même souvent pour un peu d'argent, notamment pour les séries. Et que si tu prends un truc, tu vas quand même pas prendre un coffret à la con quand tu as une version collector qui est quand même beaucoup plus sympa visuellement.
Ouais, ça dépend, mais effectivement, j'ai quand même des coffrets qui sont plutôt jolis dans l'ensemble, et oui, effectivement, il y a un certain prix à l'achat. Ouais.
Pareil, bon, je reviens pas sur les problèmes de qualité que tu peux avoir selon si tu tombes sur des prestataires qui sont plus ou moins qualifiés ou plus ou moins compétents. Tu as forcément en France ce qu'on appelle la chronologie des médias, mais qui ne concerne que les films.
Ouais, ouais.
Où à partir du moment où un film sort au cinéma, tu sais qu'il ne pourra pas sortir en édition physique avant un an et demi, je crois.
Ouais, ouais. Alors bon, avec la conjoncture actuelle, il est possible qu'il y ait quelques bouleversements de ça, d'œuvres qui sont peut-être sorties au cinéma, mais pendant moins longtemps que ce que les distributeurs auraient voulu, et peut-être qu'il va y avoir des petits changements là-dedans, parce que les mettre en dématérialisé ou en physique assez rapidement, c'est une solution pour sauver la distribution de ces films, en fait. Mais effectivement, historiquement on a ça. Ouais. Bah après, il y a aussi les problèmes techniques dont j'ai évoqué un peu leur existence, mais on n'en a pas trop parlé. Bon, il y a le zonage, hein, toujours. Il était sur DVD, il y avait trois zones. Ben, sur Blu-ray, il existe encore. Hein. Bon, moi, personnellement, jusqu'ici, ça ne m'a jamais dérangé parce que de l'import, allez, je dois avoir deux disques qui se courent après en film qui, en fait, sont des imports d'un voisin européen, mais ça ne pose pas de problème. Importer des films des États-Unis, bah, ça servira à rien parce que ce serait beaucoup plus cher à faire et qu'ils sont abordables chez nous. Et importer du Japon, bah, comme j'ai dit, c'est déjà hors de prix là-bas. Donc en convertissant en euros, ils vont pas diviser le prix par 10, hein. Ils vont nous le faire pour avoir des yens dans la poche. Hein. Et il y a le transport, etc. Ce serait super long. Donc en fait, à moins d'être extrêmement passionné, c'est impossible. Je me rappelle les Darling in the Franxx qui sortaient en Blu-ray très rapidement après être sorti sur Crunchyroll en France chez nous. En fait, bah, c'était typiquement ce dont tu parlais, hein, c'était l'achat soutien. Quand on en vend 10 000, on est content. C'était des Blu-ray de 2 ou 3 épisodes le Blu-ray. En faisant la conversion yen-euro, c'était 70 balles le truc, sans parler de frais de port et de frais de douane à l'époque. Quoi. C'était impensable, 70 € pour 3 épisodes. Quoi. Donc voilà, ça a dû attendre longtemps, mais ça a fini par être dispo chez nous en France, et du coup j'ai acheté le coffret. Et du coup, c'est un autre type d'achat soutien que je fais, c'est un achat soutien de la distribution en France des œuvres en physique.
Ce que je fais, évidemment, pas pour le physique, mais pour le cinéma.
Voilà.
Clairement, ouais. Moi, par exemple, je soutiens Eurozoom, ouais. qui me balance à chaque fois des films, ouais, que bah j'adore.
J'essaye, mais sur Valence, c'est quand même plus rare. Donc, des fois, il faut que je fasse l'aller-retour à Lyon pour aller le faire.
Oui, mais enfin, je veux dire...
On a des façons de soutenir. Ouais.
C'est normal.
Ouais. Après, bon, du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que le Blu-ray, autant le DVD... Alors, le DVD, officiellement, c'est un format qui est protégé, hein, qui a des protections. Des protections qui ont été cassées super vite et... quand tu casses la protection d'un DVD, tu casses la protection de tous les DVD de la planète. Le Blu-ray, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des protections, évidemment, contre la copie. Il y a des protections qui font qu'en plus du fait qu'il faut un lecteur physiquement capable de lire le Blu-ray, parce que bon, là, pour le coup, c'est un disque qui va de 50 à 100 gigas à la galette, donc un lecteur DVD ne pourra pas le lire, c'est normal. Mais indépendamment de ça, il vous faut un logiciel spécifique. Alors, vous pouvez lire sur le net des trucs comme quoi un VLC un peu modifié pour arriver à l'état des Blu-ray. Alors déjà, c'est illégal de base. Ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de le faire. Moi, j'ai essayé, hein, parce que bah, il fallait bien tester. Si vous réussissez à le faire fonctionner, appelez-moi. Hein. Et sur des vrais Blu-ray, appelez-moi, parce que ça m'intéresse. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en ayant acheté, je l'ai déjà dit, en achetant mon lecteur Blu-ray, quand je l'ai acheté, j'ai aussi acheté un logiciel. C'est genre 100 balles le morceau, quoi. C'est des logiciels, en plus, sont discutables en termes d'ergonomie et de fonctionnement. Ça vaut pas, c'est même pas un VLC, le truc. Hein, c'est... parce que en fait, il faut des clés de déchiffrement qui sont censées pouvoir déchiffrer les Blu-ray, et il y a des systèmes de révocation de clés, de révocation de lecteurs. Enfin, en fait, du jour au lendemain, officiellement, si dans un mois Sony il a envie que ma PS4 ne lise plus la moitié de mes Blu-ray, ils peuvent, quoi. Et ça, c'est un vrai problème parce que sérieusement, on est du coup là aujourd'hui en 2021, n'importe quel film qui sort en physique est dispo dans l'heure sur toutes les plateformes de téléchargement illégal de films et autres, et encore et toujours, que ce soit pour les films, les jeux ou la Japanimation, tu vas avoir une personne qui, de toute façon, même s'il y a une bonne offre légale, ne voudra jamais mettre un centime dans le truc et va télécharger. Ok, bon, bah, c'est un choix, chacun est juge. C'est possible, elle a à sa dispo et elle a un truc qui fonctionne et qui vient pas l'emmerder avec des protections de merde, et toi à côté, du coup tu payes ta galette. T'as que quelques lecteurs vraiment de qualité abordables qui permettent de faire ça sans trop prise de tête, donc en gros pas sur PC,
en gros les consoles
sur PS4, voilà, la PS4,
les consoles ou un lecteur Blu-ray Sony,
voilà, et
de
bah,
bonne qualité, quoi.
Pour avoir une platine qui se met à jour régulièrement, et ben bah, du coup rien vaut une PS4, hein, qui en plus fait autre chose que lire des Blu-ray,
ou une PS5, mais
si vous arrivez à en trouver une, quoi. Et du coup c'est triste parce que, enfin, je comprends pas, vous achetez votre film, vous allez avoir des galères à le lire, vous allez avoir au moment d'insérer la galette des messages, moi j'appelle ça des messages d'insultes en gros, qui disent faut pas pirater les trucs. Oui, alors bah, les seules personnes qui voient vos putains de messages, ce sont les personnes qui achètent les disques, en fait, et celles qui les téléchargent, bah, évidemment que le mec qui a ripé le film, il a enlevé le message qu'il y a au début parce que ça intéresse personne. C'est comme si je mettais une feuille A4 sur le tableau de bord de ma voiture pour dire bah tu me l'as volé, c'est pas cool, rends-la moi. Moi je vais le voir tous les jours en rentrant dedans, c'est débile. Et puis si quelqu'un un jour me la vole, bah pas de chance, bah il va en avoir rien à foutre, quoi. Soit il va virer la feuille, soit il va dessiner une bite dessus et puis il va aller planter la voiture contre un arbre, quoi. Et moi je serais très content. Donc vraiment je comprends pas. Autant le zonage, Il y a un espèce d'aspect anti-import pour des magouilles de sur où tu achètes tes films, et ça à la limite je peux le comprendre quoi.
C'est chiant, mais mettons.
Il y a un aspect, on a des distributeurs qui nous fournissent des trucs et on n'a pas envie qu'on aille se fournir à l'autre bout de la planète, pourquoi pas. Tout le reste, les mécanismes anti-copie ou les trucs qui font que t'es obligé d'acheter des logiciels spécifiques pour les lire, franchement je comprends pas quoi. Enfin, j'ose espérer que si un jour on a un autre standard de support physique, fort de leur expérience de constater à quel point le piratage est facile et répandu, ils arrêteront d'emmerder le peu qu'ils achètent en fait.
Oui, alors voilà, je pense qu'on va pas se lancer sur un débat du futur des formats des supports physiques qu'on aura, et sur plutôt la plus grande dématérialisation qui risque d'arriver sur les formats vidéo. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a un nouveau format, on trouvera bien des moyens pour faire chier les gens. Je ne m'inquiète absolument pas sur là-dessus.
Ouais, mais justement, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve des moyens pour arrêter de les faire chier en fait.
D'accord. Eh bien, écoute, je trouve qu'on a bien discuté. Hein. Je crois qu'on en est à, bien 45-50 minutes de débat. Je pense qu'on en a...
Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
On a bien fait le tour. Pour le coup, n'hésitez pas, en fait, discuter entre vous ou à nous faire vos retours par rapport à ce qu'on a bien pu vous dire, que ça soit sur... Ah non, on n'a pas de réseaux sociaux, en fait.
Mais non, mais c'est le forum Canard PC, notre c'est Canard UPC.
Mais voilà, venez sur le forum Canard PC pour discuter avec nous sur le forum sur le topic des animés.
Ouais, notamment vos propres opinions là-dessus et votre façon de consommer des animés. Parce qu'on avait deux représentants aujourd'hui. Hein, Xavier représentait un petit peu plus la personne qui consomme en dématérialisé et moi en physique.
Voilà.
Mais vous avez peut-être votre propre façon de consommer, un juste milieu ou peut-être un peu plus du grand line, ça arrive même au meilleur.
Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusque ici. On vous retrouve pour de nouveaux épisodes, soit des épisodes classiques, soit des épisodes hors série, soit même d'autres choses.
De nouveaux formats.
Mais exactement.
Ce teasing.
Oh là là, ce serait trop bien. Et en attendant, on essaye de retrouver Taro et Illicus. Toujours enfermé dans les geôles de la section 9.
Oui.
Les Tachikomas sont en train de regarder Lucille, Amour et Rock'n'Roll dans le hangar. On entend le générique français en fond sonore et Taro se met à chanter par-dessus.
Illicus, embrasse-moi, c'est assez d'espérer. La, 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 la,
cette fois, c'est sûr, il ne pourra vraiment rien arriver de pire aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que c'est ? Un truc !
Ha ha, maudit naufrageur ! Vous pensiez vous être débarrassé de moi si facilement ? Je n'ai pas dit mon dernier mot.
Attends, mais il était pas mort, lui ?
C'est quoi ce robot géant ?
Ha 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 ! J'ai affaire à des poissons rouges, on dirait. Vous avez déjà oublié votre sacrifice ? Ceci est mon méca, Crocodile Sanglier.
Oh, comme s'il n'y avait pas eu assez de troupeaux aujourd'hui !
Le vent a tourné, petites écrevisses. Sur terre comme en mer, on n'échappe pas au roi des pirates.